Vous avez peut-être remarqué que j'ouvre plusieurs petites fenêtres plutôt qu'ouvrir un gros patch qui contient tout. Ça, c'est un autre truc de programmation. Comme les ordinateurs sont multiprocesseurs maintenant, c'est ça. Et surtout, quand on a des fenêtres distinctes, il assigne chaque fenêtre à un processeur différent en cycle. Alors que si je mets tout dans la même fenêtre qui s'ouvre au même moment, je charge tous les patchs dans un seul processeur. Bon, quand on fait des petites bidouilles comme ça, ça pose aucun problème particulier, mais mon mastodonte, là, il est à la limite de ce que peut mon ordinateur parfois. Et ça devient un facteur. Alors, si dans Max, l'objet qui fait de la granulation s'appelle SOGS. Il y en a plusieurs, mais il y a celui-là qui marcherait bien. Normalement, là, j'aurais du son. J'ai pris le help ici, tout simplement, et je l'ai bricolé. C'est vraiment une technique fondamentale, ça. Plutôt que de tout refaire soi-même, on va chercher les objets. Alors, l'idée du granulateur comme celui-là, c'est de. Ah, je sais ce qui se passe. C'est d'aller chercher un enregistrement. La granulation ne marche pas très bien en temps réel, parce qu'il faudrait savoir d'avance où sont les sons. Ça marche mieux en temps différé comme ça. Il va chercher un son dans son réservoir. Et longtemps je l'ai utilisé. Oui. Il manque le play quelque part. Où ça?
Il est branché.
Oui. Là, il y a de la sortie. Mais le mécanisme ne déclenche pas. Excusez-moi. Bon, on va prendre celui-là. Ok. Ok. Alors celui-là, c'est un... L'idée fondamentale des granulateurs, c'est que ça prend un fichier de son et ça découpe le son en petites tranches. Après, les petites tranches peuvent être chacune modulées un petit peu, soit en hauteur, soit en durée, soit en déplaçant un petit peu dans le temps le début de chaque grain. C'est ce qui se passe ici. Ici, au départ, j'ai un son de quatuor à cordes qui fait une phrase tic-tac-tac-tac en trémolo. Donc on entend le violon là, tic-tac-tac-tac-tac. Et là il prend juste un petit bout et il le répète en boucle. Et je peux déterminer le degré de superposition de chaque fragment. Là, il n'y en a pas. Ce qui fait qu'on a tic, 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 des sons très secs et brefs, séparés les uns des autres. Je lui demande de faire aucune variation en milliseconde, donc j'ai toujours le même fragment qui est répété à une certaine vitesse qui dépend de ça. Donc, la durée du grain, ah, vous ne voyez pas, j'aurais dû le dire avant. La durée du grain, c'est ce contrôleur-là ici. 22 millisecondes, 80 millisecondes, plus le grain est long, plus le fragment musical se reconnaît. Alors, ça correspond au réglage, à ces réglages-là. Donc, 120 millisecondes pour la durée du grain, zéro transposition, zéro variation de chaque grain, zéro transposition du grain et 5 millisecondes de dispersion aléatoire autour du point de lecture. Alors, justement, revoyons ça. Donc, je vais prendre des grains un peu longs pour qu'on entende bien. Là, j'ai un grain de 300 millisecondes. Zéro transposition, zéro variation de chaque grain, donc c'est toujours le même son. Quel son? Celui que je détermine dans la lecture du fichier ici. Aussi, on tourne comme ça. Justement, ça marche pas en temps réel, ça.
Bouge tout le temps.
Oui.
Faudrait faire un freeze sur un enregistrement en temps réel.
Voilà, c'est ça. Exactement.
Ça, j'avais fait sur un autre objet.
Il y a un autre objet qui fait ça en temps réel, mais qui fait ça moins précisément. J'ai pris celui-là parce que celui-là, je l'ai programmé dans mon affaire et il tourne tout de suite. Mais effectivement, il y en a d'autres qui font des variations de la même chose. Mais la granulation, c'est toujours ces paramètres-là. L'emplacement du fragment. La dispersion aléatoire du fragment autour du point de repère.
Alors, cette dispersion, c'est, je prends mon curseur, il est à 2 minutes dans le fichier,
oui.
Et je peux prendre plus ou moins de secondes.
C'est ça, exactement. Ou plus ou moins X millisecondes. Oui. En général, ces choses-là, c'est assez fin.
cette dispersion, elle est...
ici, là.
C'est le premier...
On set variation. C'est un millisecond. Ici, c'est 200 la limite. Mais ça peut être beaucoup plus. Ah ben, essayons. L'intérêt de brancher les choses comme ça, c'est qu'on a une tirette qui donne des valeurs plausibles et utiles, mais aussi une table de nombres qui permet d'aller plus loin. Par exemple, si je lui demande 5000 millisecondes de dispersion, vous voyez, là on est plus ou moins 5 secondes autour du point de repère. C'est beaucoup plus différent chaque grain.
Parce que quand même, le principe de la validation, c'est de prendre des grains très courts pour, on va dire, les étirer.
Ça peut être ça. Pour l'étirement, j'en parle après. On commence par ce paramètre-là. D'accord? Pour l'aléatoire, là, de la dispersion aléatoire, ça va? Je vais ramener ça à zéro parce que je veux vous montrer les autres paramètres. La transposition du fragment. Chaque fragment peut être transposé vers l'aigu ou vers le grave. Et là, ici, c'est calibré en centième de demi-ton. Selon les algorithmes, ça va varier. Ici, il est calibré en centième de demi-ton. Là, je transpose chaque fragment de 7 demi-tons, c'est-à-dire à peu près un peu plus d'une quinte vers le grave. Ce que je vous expliquais sur les transpositions tout à l'heure qui permettent d'aller chercher des sons inouïs. Là, je suis à une octave en dessous. Je vais voir si je peux aller beaucoup plus bas. Oui, ça marche. Là, je ne fais pas du tout de la granulation, je fais de l'étirement. Parce que mes fragments sont très très longs. OK pour la transposition vers le grave ou vers l'aigu. On pourrait faire un contrôleur en temps réel pour faire une sorte de scratch avec ce paramètre-là, ça marche très bien. OK pour celui-là. Et ça, c'est une modulation aléatoire de la hauteur pour chaque grain. Donc, il a 190 centièmes de demi-ton de plage d'oscillation à chaque répétition. Si je combine les trois paramètres ensemble, j'ai une granulation très aléatoire autour du fichier. Bon. Il y a un dernier point, et c'est là où cet algorithme spécifique-là est intéressant. Il s'appelle SOGS pour Smooth Overlap Granulation of Sounds. Smooth Overlap, c'est que son idée, c'est de faire ce que vous dites, une granulation qui sert à étirer la durée. Alors quand on fait ça, il faut augmenter le facteur de superposition de chaque grain, parce que là, ils sont tous séparés, comme vous entendez. Et si je lui mets... Je vais couper la... À partir d'un petit fragment de son, j'obtiens un son tenu. C'est donc une des techniques d'étirage de son possible. C'est pas la meilleure. Si on veut vraiment étirer un son, c'est pas le meilleur moyen. Les algorithmes de Time Stretch, de Pro Tools et autres procèdent avec une variante de son, on coupe le son au petit bout, puis on fait plusieurs copies de ça et on étale le son de cette manière-là. Mais pour faire un bon étirage, dans ma pièce de tout à l'heure où j'avais des sons étirés genre 600 ou 700 fois, on ne peut pas faire comme ça. Il faut utiliser des transformés de Fourier et des resynthèses. Et ça, c'est mieux. Par exemple, dans SoundHack, connaissez-vous SoundHack? Non? Je vous le montre rapido. C'est un autre freeware. SoundHack. On va chercher un son, n'importe lequel. Oui, tout. MP3, oui, je pense que oui. Voilà. Ça. Bon, j'ai des oiseaux. Et je peux aller lui demander... de changer la durée du son. C'est avec, ici, ça s'appelle VariSpeed. Non, c'est pas ça. Où est-ce que c'est déjà? Face vocoder, pardon. C'est là ici. Un vocodeur de phase, c'est un appareil qui fait une transformée de Fourier, qui analyse le son, qui dit il y a telle harmonique à tel instant, avec telle intensité, etc. Et après, on peut faire une resynthèse du son en variant des paramètres. Et là, je vais aller changer le time scale, c'est-à-dire qu'il va me faire les mêmes harmoniques dans le même ordre, piou, piou, par exemple, mais au lieu de durer une seconde, je peux lui demander de varier, par exemple, lui demander les oiseaux, je vais les faire, comme c'est un peu long, je vais lui demander, mettons, 300 fois. Donc, il calcule. C'est pas un logiciel en temps réel. La différence par rapport à un étirement par granulation, c'est que ça, c'est complètement lisse. Et il n'y a aucun phénomène de distorsion inhérent à l'autre. Donc, 300 fois, j'ai pris un fragment qui durait 2 minutes. Donc, ça met un peu de temps à calculer. Donc, vocodeur de phase. Pour ce qui est du réalisme, l'avantage de ça, c'est que comme c'est un simple étirement temporel sans changement de la hauteur, je ne perds pas la qualité acoustique, je ne rentre pas dans les problèmes de ralentissement trop grand, les effets Dark Vader ou de transposition vers l'aigu ridicule, l'effet Mickey Mouse, vous voyez. On garde avec un naturel spectral intéressant. Oh, il y en a pour des plombes. J'aurais dû prendre un son plus court. J'en suis à 8 minutes là. 300 fois 2 minutes, ça fait là. Ouais. J'avais fait une pièce de 6 minutes à partir du seul mot River Run. Comme ça. Non, c'est trop long, excusez-moi. On va attendre. Comment je peux arrêter?
Ctrl-C, ça marche pas.
Stop process. Voilà.
Et c'est arrêté, mais il n'a pas enregistré.
Non, il n'y a rien à enregistrer. Ah, si, si. Il joue. Il y avait du silence au début. Ouais, bon. Je vais prendre un son court et refaire la même chose, ça va être mieux. Tiens ça. Mais j'ai pas de son. Ça. Bon, décidément, lui, il n'a pas marché. Donc, si je prends ce son-là. Allez. Merci. Et que je le multiplie à peu près 300 fois.
On voit des pics.
Ouais. Il y en avait, mais beaucoup trop lent. Je pense que tout à l'heure, j'ai étiré le blanc du début de l'enregistrement.
Et là, on voit bien la barre de progression.
Oui. Je voulais mettre une grosse valeur parce que c'est précisément ce que les logiciels bridés et limités ne font pas. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Pause process, c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Bon, j'aurais peut-être dû prendre un son plus variable, on aurait mieux entendu, mais écoutez l'attaque. Oui. Voilà. Alors que là, cette attaque de clavecin est quasiment instantanée normalement. Donc c'est un moyen d'obtenir des très grands étirements et des étirements lisses sans l'effet granulaire du granulateur. Et si vous regardez plus finement, c'est l'autre intérêt de... Regardez les autres réglages de ça dans le Face Vocoder, on peut y aller aussi par fonction, scaling function ici. Et on pourrait lui demander par exemple de ne pas étirer l'attaque, garder une attaque nette et d'étirer beaucoup après. Il faudrait juste dessiner la bonne courbe. Ou faire des étirements aléatoires. Bon, tout ça, c'est du temps différé. Sous-estimez pas le temps différé pour des choses complexes. Je sais bien que vous voulez tout de suite, là, c'est votre habitude, mais j'étais là pour vous parler du temps réel, mais le temps différé a sa grande valeur. Hein. Surtout au niveau de la finesse des choses, des enveloppes, des mixages, des transitions, de tout ça. C'est important. OK. Les paramètres qu'on voit là, vous voyez, samples FFT, nombre de bandes, type de fenêtre, ça, ce sont les paramètres habituels qui régissent les transformées de Fourier. Pour vous expliquer en détail ce que ça veut dire, ça, c'est un cours de 3 heures, donc je n'ai pas le temps de le faire, mais ces réglages-là sont absolument critiques. Ouvrez un livre de traitement de signal ou un cours d'informatique musicale pour savoir ça. La façon dont on prend le signal de départ, qu'on le fenêtre, c'est-à-dire qu'on découpe un petit morceau, quelle est la forme du morceau exactement, quelle est l'enveloppe dynamique de ce morceau-là, une fenêtre carrée, des fenêtres gaussiennes, différentes. Et chacune de ces fenêtres-là a une incidence sur la qualité sonore. Ça a aussi une incidence sur le rendu, parce que si je mets beaucoup de bandes de fréquence comme j'ai mis là, ça veut dire que c'est très fin au niveau de la hauteur, mais tout ce qui était d'ordre rythmique disparaît. De la hauteur. Tout ce qui est rythmique disparaît. Parce qu'en transformée de Fourier, c'est la loi d'Heisenberg. Si je suis précis au niveau de la fréquence, je ne suis pas précis au niveau du temps. Et si je suis précis au niveau du temps, je ne suis pas précis au niveau de la fréquence. C'est inhérent à ce type de calcul-là. On ne peut pas déroger à ce principe-là. Bon, là, je n'ai pas le temps d'aller plus loin, puis j'ai d'autres choses qui concernent davantage de personnes ici à dire. D'accord ? Donc, les petits réglages-là, ces trois petits réglages-là, quantité de bande, type de fenêtre et quantité d'overlap, c'est-à-dire de superposition des fenêtres comme tout à l'heure, dans le SOGS, ça c'est critique. Prenez du temps pour jouer avec ces réglages-là pour voir si ça fait l'effet que vous voulez. Très, très important. Sandac, je vous recommande vraiment de télécharger, ça fait partie d'une trousse à outils Sandac. Ça se trouve partout. OK pour ça. C'est l'essentiel pour les granulateurs. L'objectif du granulateur est pas trop de... On peut l'utiliser pour faire des étirements, mais ça fait des étirements modérément réalistes. Si vous voulez un son réaliste, prenez plutôt un vocodeur de face. Par contre, ça fait un effet de granulation dans le son qui est plus intéressant. Et si je reviens dans Max... Ici, on voit bien que c'est un outil de recréation musicale. Qui peut créer des nuages de son autour d'un son principal et créer une variation de matière tout à fait intéressante. En prenant des grains très longs, ma matière d'origine est plus reconnaissable. En prenant des grains courts, j'entre dans le domaine de la synthèse du son, en fait. Et c'est un outil tout à fait intéressant. Dans le patch qui ne marchait pas tout à l'heure, je contrôlais... Je contrôlais les différents paramètres ici par des manettes et des contrôleurs externes. Pour faire de la granulation en temps réel, pour jouer avec, quoi. C'est toujours mon point de vue sur le son électronique. De garder toujours une trace de l'action humaine dans le procédé électronique, soit pour éviter qu'il y ait des répétitions monotones et mécaniques. Les échos mécaniques, moi je déteste ça. Je veux bien une construction rythmique avec un écho, mais un truc parfaitement monotone, c'est d'une trop grande banalité, ça ne m'intéresse pas. Donc, toujours, je mets des contrôleurs en temps réel, par molette quelconque, par contrôleur quelconque, histoire de générer des matières riches et j'enregistre le résultat que je réinjecte dans la machine après, quand j'ai besoin. Là, je sais toujours pas pourquoi ça marche pas. Ok, pour ça, il reste un objet que je voulais vous montrer qui est très intéressant. Je peux le faire dans Max, mais il a exactement le même dans Pure Data. C'est l'objet d'analyse du son. Il s'appelle Fiddle, il y en a d'autres, mais celui que je vais vous montrer, j'ai vérifié, il existe dans Max. Il s'appelle Fiddle. Alors, Fiddle, en principe, oui, l'entrée est là. Non, mais ça devrait marcher là. Je ne reçois pas. Oh. Ah, je sais. Ici. Oh. Voilà. Oh. Alors, animal. Fiddle, ouais.
Ça, c'est LED Fiddle ou pas du coup?
Non, non, c'est. Il est branché dans mon. Ouais, il devrait marcher. C'est à cause de ça. C'est bon. Oh, voilà. Oh. Alors, ce qui est intéressant ici, je vais zoomer, c'est que cet objet-là, qui se règle, vous trouverez comment dans l'aide en ligne, là, je vais pas y perdre de temps. Ce qui est important, c'est qu'il nous transmet deux informations simultanées. La hauteur, ici, en note MIDI, et l'intensité en décibels. Bon, c'est un peu dur à lire parce que la fenêtre change très très vite. Si je retourne dans un invert au niveau principal de mon patch. Oh, ça arrive là ici. Oh. Et la note qui est là. Oh. Et la déviation en centième de demi-ton ici. Bon. Par ailleurs, il transmet aussi de l'intensité. Oh. Vous voyez, les valeurs sont assez petites. Oh, là, les valeurs sont plus grandes. Oh, et j'ai une variante ici un peu plus simple, qui est moins agitée. Et on peut se servir de ça dans un patch interactif pour moduler des paramètres. Je vais activer une de ces fonctions-là. Là, je vais aller activer une fonction qui reçoit l'intensité et vient moduler le filtre. Pour que ça soit un peu plus sonore, je vais ajouter un petit peu de distorsion. Il est sensible à la dynamique de ce que je chante. Ce qui fait qu'il fait des waouh waouh waouh, c'est la wah wah. C'est un auto wah, mais contrôlable par l'intensité de ce que je chante. Je chante doucement, le filtre est sombre. Et quand je chante fort, le filtre est aigu. Je pourrais facilement réutiliser l'information de hauteur pour faire suivre par un oscillateur, par exemple, et faire doubler à l'unisson ou harmoniser ma voix par un synthétiseur. J'ai la note, j'ai l'intensité, et je peux contrôler ça. En général, je ne fais pas ça, cela dit, parce que, comme vous voyez, la perception de la hauteur est très, très agitée. C'est un petit peu...
On peut lui appliquer aussi une forme de...
De lissage, on peut... Oui, oui, bien sûr. On peut atténuer un peu les changements. Oui, oui. On peut le faire. Mais en général, je trouve ça très naïf.
Oui.
Oui. C'est vraiment de la musique au premier degré quand on fait ça. Parce que si le suivi de la hauteur par un détecteur de hauteur fait qu'on entend la même note au synthétiseur que ce qu'on chante, bon, on voit tout de suite l'effet, mais c'est vraiment un effet immédiat.
Oui, mais c'est un peu le même effet que le live, du coup.
Oui. Non, oui, bien sûr.
En fait, là, c'est intéressant, surtout pour, par exemple, faire de l'interactivité,
oui.
Pour reconnaître un son précisément.
Oui.
Mais du coup, est-ce qu'on peut aussi le régler sur le temps aussi ?
Bien sûr.
Le temps d'attaque,
oui, oui, tout à fait. Justement, je cherchais les effets là. Si je retrouve ce que j'avais là. En principe, quelque part, j'ai un contrôleur qui... Tiens, on pourrait activer celui-là. Je vais mettre des délais plus longs. Ah. soit mon intensité ici, avec un angle couché devant. Et j'ai multiplié, j'ai multiplié le signal brut, qui varie relativement peu, par 100. Ce qui augmente, vous voyez pas. Ce qui augmente l'intervalle musical. Ce qu'on voit là, c'est l'intervalle musical en demi-ton. Quelqu'un qui contrôle ça peut doser l'intervalle qui l'accompagne en fonction de ce qu'il chante. À plus petite échelle, si je mets un réglage moins grossier, alors ça fait, en parlant tout simplement, j'ai un clone qui double la hauteur de ce que je dis, mais d'une manière un peu plus variable. Ça crée un changement dynamique un petit peu plus discret. Non. Alors là, je viens cliquer à l'intervalle de transposition de l'écho. Je pourrais prendre l'information de hauteur qui est transmise pour m'en servir pour... moduler... où est-ce que c'est? Trouver la note de ce que je chante et s'en servir comme intervalle pour doubler avec un intervalle précis en fonction de la note que je chante. Ça, c'est tout à fait possible. Il suffit de prendre la même entrée qui s'appelle... non, c'est justement pas celle-là. Je ne l'ai pas programmée souvent, celle-là, parce que j'aime pas l'effet de ce que ça donne, en fait. Je pense que je l'ai fait dans le synthétiseur. Ici. Ça doit être ça. Oui. Normalement, ici, je reçois la hauteur. On va mettre... Voilà. Il reçoit une hauteur. Et si j'active le synthé, il devrait doubler ce que je chante par une note de synthé. Donc ça... Il ne détecte pas, qu'est-ce qui manque? Il ne le reçoit pas. Bon, je ne vais pas trouver. Mais en principe, là, j'ai ici le récepteur de ça. J'aurais dû le programmer d'avance pour ne pas la chercher devant vous, excusez-moi. Ah, ah, ah. Ah, ah. Bah. Bon, ça marche pas, j'ai pas la main, ça joue pas. J'approche. Ah. 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 Il ne reçoit pas. Bon, attends, attends. Mais en principe, en faisant toute une série de branchements ici, il fallait que j'active à la fois la détection de la hauteur, la détection de l'intensité pour venir moduler à la fois la hauteur du son de synthétiseur et l'intensité du son de synthétiseur en temps réel, en chantant. Je le fais rarement parce que pas ça que je veux faire avec ces artifices-là. Étant donné que la voix est déjà présente, la redoubler au synthétiseur est un peu pléonastique. Et puis, la détection de la hauteur, c'est l'autre raison, est seulement partiellement fiable. Ça a tendance à faire un son qui est très, très instable. Et une qualité musicale peu intéressante. J'en reviens au point que j'essayais de défendre hier. Finalement, tout ça, une fois qu'on a les informations principales, utiliser Fiddle, utiliser ENV, E-N-V, c'est l'autre objet que...
C'est
l'enveloppe follower. Lui, il suit l'intensité du son. Ces deux objets-là détectent, à partir de n'importe quel signal acoustique, des informations que vous pouvez réaffecter à des processus dynamiques. Ça marche mieux, à mon avis. Je sais pourquoi il ne marchait pas, je viens de trouver. Ça marche mieux, à mon avis, quand on sélectionne des processus d'une manière... Il marche juste à moitié. On tente un peu discret. Mais en fait, en situation de concert, les processus les plus robustes, ceux dans lesquels il y a plus de liens entre l'aspect acoustique du son qu'on étudie et l'effet qu'on veut, ça a tendance à permettre à l'auditeur de trouver un lien plus organique en ce qui se passe entre l'aspect acoustique et l'aspect électronique. Ça, c'est un côté. L'autre versant de ça, si le lien est trop téléphoné, avec un suivi de hauteur qui colle à ce que chante le musicien, ça apporte pas grand-chose musicalement, à mon avis. Donc, c'est pour ça que je le fais pas. Mais vous pouvez facilement faire ça avec Fiddle, brancher un oscillateur sur la sortie de Fiddle et ça va marcher. C'est sûr que ça marche. Après, c'est à vous de voir. Donc, pour le petit peu de temps qui nous reste, j'aurai pas le temps du coup de vous laisser procéder. Est-ce qu'il y a des questions qui vous tracassent? On a le temps pour quelques idées. Ce qu'on pourrait faire à la suite de ça, je ne peux pas vous faire un cours complet sur Pure Data. C'est difficile à faire par soi-même, mais si j'ai attiré votre curiosité, ou Max, c'est pareil. Essayez, là, bientôt, là, attendez pas 3 mois d'être lancé dans d'autres projets. À la suite de cette expérience-là, essayez de vous faire 3-4 petits programmes pour essayer de mettre tout de suite en pratique ces idées-là. De sorte que si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire via Jean-Michel, je répondrai autant que possible, ou je vous indiquerai quel objet aller étudier et comment les brancher. Attendez pas l'été. Si vous pouviez intégrer ça dans vos projets de cette année, vous avez des compositions à faire, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez à faire d'ici l'été?
Des installations
sonores, bon, tout ça. Vous avez des projets à faire. Essayez d'intégrer une dimension programmation et une dimension interactive. Il y a encore un aspect de Max que... De Fiddle, pardon, qu'il faut que je vous montre. C'est pour ça que Fiddle est intéressant par rapport à d'autres suiveurs de hauteur. Ici. Dans Pure Data, ce n'est pas bleu ici, mais c'est la seule différence. C'est vraiment le même logiciel. Ce logiciel-là... Voilà. Fait aussi une analyse. Des différentes harmoniques. Là, il en prend 6. Mais je sais pas quel signal il reçoit là. Ah d'accord, il reçoit ça ici. Il reçoit un oscillateur qui donne la note 57, c'est un La. Et en principe ici, on voit qu'il tourne autour du La. Avec une intensité assez forte. Et là, j'ai en... En Hertz, les 3 premiers partiels du son. On voit que ça tourne autour de 220, le La, de l'octave, deuxième harmonique, l'octave et la quinte, troisième harmonique, avec leur intensité. En dosant bien cet objet-là, vous pourriez avoir une interaction entre le timbre de ce que vous jouez et les sons électroniques. Je vais vous faire entendre un exemple qui a été fait avec ça, mais bien fait. Ouais. C'est la pièce En écho de Philippe Manoury, pièce pour laquelle Max a été développé en fait. Donc c'est normal que ça fonctionne. Je l'ai... Voulez-vous voir la chanteuse ou juste l'entendre? Le son est meilleur quand on fait juste l'entendre. Donc c'est le même dispositif que ça, un micro et puis un patch max avec l'analyse spectrale et un peu de synthèse modulée par l'analyse de ce qu'elle chante. C'est si peu fort. Donc une banque d'oscillateurs, paf, les mêmes que j'utilisais. Un peu avec un vibrato un peu tremblotant. Et quand elle va commencer à chanter, vous allez entendre que ce fond-là change de couleur. La dynamique de ce qu'elle joue avec un petit retard et ça suit sa transposition. Et ici, la détection de hauteur est suffisamment stable pour que la coordination temporelle des différents moments de la pièce, les cues, les tops de conduite, si vous voulez, sont détectés automatiquement. C'est programmé de telle façon que quand elle arrive à ce do dièse-là, ça déclenche automatiquement tel effet. Quand elle arrive à ré, c'est tel effet, etc. C'est assez risqué à faire à la voix parce qu'il suffit que la chanteuse détonne pour que plus rien ne marche. Personnellement, j'évite ça pour cette raison-là. Je préfère déclencher à la main et mixer à la main, je trouve ça plus prudent musicalement. Mais bon, lui, c'est un peu une pièce manifeste pour... date de 94, je crois. 94. Donc, il voulait vraiment montrer ça. Quand c'est réussi, ces phénomènes-là, ça nous amène à avoir une partie électronique qui est sensible. Et la chanteuse a toute la place du monde et le temps du monde pour chanter, varier son interprétation d'un soir à l'autre et jouer avec la soprano en l'occurrence. Elle connaissait bien les patchs, elle connaissait bien les sons. Donc, dans la version disque qu'on entend là, c'est bien fait. Sur Internet, vous trouverez 2-3 versions et elles sont toutes différentes. C'est assez drôle. Là, on voit comment cette programmation est semi-ouverte, semi-fixée. C'est de l'ordre de l'œuvre ouverte dont je parlais hier, c'est-à-dire avec des éléments de repère qui sont fixes, mais des éléments mobiles et ouverts. Un autre petit passage où l'effet d'analyse spectrale s'entend encore mieux. Connaître les voyelles de ce qu'elle chante dans le son électronique. Un des outils qui est très utilisé aussi ici, c'est un compresseur, un docker. Vous avez entendu parler de cette fonction-là? Un docker, c'est une des applications possibles du compresseur dans lequel un signal principal est contrôlé en intensité par un deuxième signal. Et en l'occurrence, quand elle ne chante pas la partie électronique est plus forte, et quand elle chante, la partie électronique retombe derrière. Et le Docker, c'est un compresseur qui fait ça automatiquement. C'est très utilisé à la radio, quand il y a des annonceurs, il y a la musique qui joue à fond, et puis quand l'annonceur commence à parler, ça baisse le niveau automatiquement. Ça, c'était pour éviter que le mixeur s'endorme à sa console et oublie de baisser quand l'autre parle. C'est très utilisé en électroacoustique, ça, quand on veut intermoduler deux sons l'un par l'autre. Et dans Pure Data ou dans Mac, ça se fait très très simplement. On prend la sortie d'un objet qui est sensible à l'intensité, par exemple Anv ou Fiddle, et on fait une inversion d'intensité. Quand le signal principal qui sort de Anv est fort avec un objet, une soustraction par exemple, on diminue l'intensité du deuxième signal, et quand ce signal-là est faible, on augmente par une addition avec une équation mathématique par exemple, ou une règle
multiplié par moins 1 plus
exactement, plus le niveau de référence, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est très très facile, et ça fait partie des mille et une possibilités d'interaction fine entre les sons. On est en principe à peu près au terme de notre affaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai omis de vous proposer, ou on a encore quelques minutes? Alors, j'aimerais, si vous voulez, que vous m'envoyiez des petits projets, si c'est pertinent pour votre affaire là. S'il y a un bout interactif qui impliquerait un logiciel comme Pure Data ou Max dans votre projet d'année, ça me fera plaisir de vous donner des tuyaux, aller voir plutôt tel objet plutôt que tel autre, aller essayer telle organisation, etc. Bon, j'ai un printemps chargé, je ne ferai pas la programmation à votre place, mais je peux vous donner des indications.
En fait, on a des projets assez différents.
Ouais.
Peut-être qu'ils mettent en jeu le logiciel comme Pure Data, donc pas du tout.
Oui. Oui, oui. Bon, ben, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Dans une version 2.0 de cette formation-là, il y aurait éventuellement des heures de formation spécifiques Pure Data pour ceux que ça concernerait, par moi ou par quelqu'un d'autre qui saurait le faire, moi, évidemment. Moi, ça fait plus de 20 ans que je joue avec tout ça, avec grand bonheur. Parce que la musique que j'en fais est plus intéressante comme ça. Donc évidemment, je suis un militant de tout ça, mais je vous invite à être curieux encore. D'autres questions? Si on a un peu de temps, je vais aller voir l'objet Fiddle ici, je l'avais commencé à le préparer.
Il y a un autre objet sur Pure Data, qui est, je crois, le même sous Max MSP.
Ouais.
Je ne sais plus si c'est. Je ne sais plus vraiment le nom, mais c'est un truc comme SusMog, ou SusMog, quelque chose.
Ouais.
Sans le nom, du coup. Mais qui aussi reprend, on peut faire des analyses de fréquence.
Ouais.
Qui était assez efficace pour se servir, par exemple, pour faire des oscilloscopes.
Ouais.
Du coup, pour appliquer aussi une texture de fréquence de voix, par exemple,
ouais,
un son ou des choses comme
ouais,
ça,
ouais,
avec les hauteurs.
Ben on va le faire vraiment à la COSAC, là, juste pour voir si ça marche. Je vais rajouter un oscillateur ici. Oh! Pourquoi il prend pas?
Ah, mais il faut transformer.
Alors là, en principe, j'ai une note MIDI, il faut faire M2F, bien sûr. Ouais. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux ça, ça, ça. Voilà. si c'est. Non. Je me demande s'il marche pas mieux en Pure Data qu'en Max. J'avais pas regardé Pure Data depuis un bon moment, c'est pour ça que je suis un peu brouillé. Mais j'ai l'impression qu'en finesse de calcul et en charge de processeur, Pure Data a l'air plus efficace que Max. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas la.
Sous Mac OS, sous Linux.
Oui. Mais là, je suis en Mac OS. Parce que. Vous voyez, c'est assez stable. Je vais avec un oscillateur plus timbré, ça va être. Ça c'est un peu trop timbré. Bon. Ah tiens, ça m'amène à vous parler d'une autre petite astuce. On a ça, on a ci, on a ça. Ouais, je vais en fait mettre un filtre. Parce qu'il y a une famille de filtres dont je ne voulais pas parler. Non, je vais commencer par une autre, la plus simple. Allez. Et je vais me servir de l'amplitude ici pour moduler la fréquence de coupure du filtre.
Et dans le deuxième chiffre du NPAC, là,
c'est quoi du coup ? C'est le temps qu'il met pour aller. Attendez, je parle peut-être pas du même que vous. Ça monte pas, c'est où? Non, mais lui, il joue pas. Ah, il y a quelque chose qui va pas. Tout à l'heure, ça marchait. Ah, débile. Vous voyez, j'ai branché dans la phase, l'entrée de phase du. J'ai pas branché au bon endroit. Et du coup, j'ai. Saboter ça. On va le réinitialiser. Alors. De campagne de la guerre de 14. Bon, il faudrait raffiner, mais vous avez l'élément de base pour un suivi comme ça. Ce que je voulais, une des pistes que je voulais vous donner par rapport à ça, et c'est très, très souvent, on a besoin de ce genre de choses. Un des problèmes ici, c'est que le son est beaucoup trop terne. La fréquence de coupure du filtre est dans un registre qui ne correspond pas bien à la voix que je chante ou à l'oscillateur. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est faire des décalages et des transpositions des données brutes dans une plage de fréquence, dans une plage de valeur qui est utile, qui est efficace. Et pour faire ça, il y a plusieurs moyens, mais un des bons, c'est d'utiliser une équation de transfert. Donc, je reprends, et là, il faut que vous voyez. Je reprends l'objet XPR. Je lui dis, prends la valeur flottante, parce que là, la valeur décimale est importante, que tu reçois, multiplie-la par un facteur quelconque. Et décale le tout par un transpositeur qui est une troisième variable. Donc, dollar F3. Et avec des réglages appropriés, on peut recaler les valeurs brutes dans une zone qui est plus utile. Par exemple, ici, là, j'ai la même situation que tout à l'heure. Et je vais lui demander de décaler tout ça de 3000 Hz. Que je change l'algorithme pour qu'il descende pas à 0 Hz. Il faudrait mettre un split ici. Lui demander de ne pas descendre en dessous de la valeur 30 en midi. Il coupe le zéro qui faisait clac clac clac. Je pourrais atténuer encore un peu. 10. C'est pas parfait parce que il perd la virgule décimale là, il faut faire avec un autre objet. Celle-là. Comme ça. Et l'objet select 0 sélectionne une valeur. Et il dit bang quand il a cette valeur-là. Mais quand il ne reçoit pas cette valeur-là, il transmet tout ce qu'il reçoit. Ça, c'est ce que j'ai fait là. Et là, je vais lui demander de... Quand il fait zéro, je vais lui demander de couper le son. Bon, je ne sais pas. L'important, c'est l'objet ici. Celui-là, donc, permet de faire un décalage des plages de valeur pour que ce soit dans la zone qui nous intéresse. Et ça, c'est l'addition à la fin. Et la multiplication, elle, elle sert d'amplificateur ou d'atténuateur de la variabilité. Là, je suis à 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il suit au décibel près ce que j'envoie. Si je diminue ce chiffre-là en prenant, par exemple, 1 dixième. L'intensité varie beaucoup moins. Et si au contraire je multiplie par 10, chaque petit changement d'intensité va venir moduler le filtre. Donc ces deux, cette addition, cette multiplication-là, ça sert à doser, à calibrer très finement le signal brut que je reçois par rapport à la fonction que je contrôle. Et moi, je mets systématiquement ça partout. À chaque fois que j'ai des données en temps réel qui arrivent, comme moyen de situer exactement dans la zone le paramètre qui m'intéresse. Bon, je le fais avec cette fonction-là. On peut le faire avec plein d'autres outils. Il y a des lisseurs, il y a des équations de lissage. Un filtre passe-bas peut servir à faire ça d'une certaine manière. Je peux prendre une table de transfert. Les tables, c'est intéressant parce qu'on peut le faire de manière plus intuitive et dessiner la forme qu'on veut. Comment répond le dispositif. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous n'êtes pas condamné aux données brutes. C'est là où je vais en venir. Quand vous avez des messages en temps réel qui arrivent, le contrôle fin des paramètres et des processus musicaux se fait en ajustant et en calibrant les choses. C'est long, calibrer tout, mais c'est là où ça devient musical, ou efficace en tout cas. Tout à l'heure, mon petit problème avec le synthétiseur que je n'arrivais pas à contrôler à la voix, c'était mes calibrages qui n'étaient pas bons. Et je n'avais pas le temps de chercher là. Mais en dosant finement les choses, on obtient des résultats musicaux suffisants. OK pour ça. Et là, j'ai vraiment épuisé ce que je voulais vous dire. Ça en fait beaucoup, oui. Ça en fait beaucoup. Vous retiendrez une partie de tout ça. Mais c'est la stratégie générale, la stratégie globale que j'essaye de vous communiquer, d'attirer votre attention sur la recherche de la finesse, ça c'est le point principal, l'autre attention sur l'ouverture et la recherche d'une adéquation fine entre ce que vous voulez faire et comment vous le programmez. Ça c'est la clé. Le reste c'est des détails que vous redécouvrez. Le fait d'y avoir été exposé un peu, ça va vous rester dans le semi-conscient et après vous pourrez réappliquer ça quand vous en aurez besoin. OK? Bon, ben merci à vous, merci de votre écoute.